Radio Vatican, France-Afrique.
Mes auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Un colloque pour comprendre ce qu'est la sainteté aujourd'hui a lieu à Rome jusqu'au 6 octobre prochain. Plus de précisions dans quelques instants sur cette conférence promue par le dicaster pour les causes des saints. Nous serons également dans cette édition en République du Congo où l'archidiocèse de Brazzaville s'inquiète de la recrudescence de l'insécurité dans le pays avant de nous rendre en Côte d'Ivoire pour évoquer la réunion de rentrée scolaire de l'éducation catholique de ce pays. C'était du 29 au 30 septembre dernier dans l'archidiocèse de Yamoussoukro. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira notamment au Burkina Faso, où plusieurs dizaines de personnes manifestaient mardi à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation dans le pays quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La conférence promue par le dicaster pour la cause des saints s'est ouverte lundi 3 octobre à l'université pontificale Antonianum à Rome. Jusqu'au 6 octobre, des experts de différentes disciplines discuteront de la définition actuelle des vertus héroïques et de la réputation de la sainteté à l'ère numérique. Jusqu'au 6 octobre donc, des membres du dicaster du monde académique ainsi que de la culture et des médias sont appelés à discuter de deux thèmes principaux identifiés par le cardinal préfet Marcello Semeraro. Le premier thème est l'héroïcité chrétienne entre perpétuité et actualisation, et il s'agit de savoir identifier les vertus requises pour une sainteté canonisable, en gardant à l'esprit que Saint John Henry Newman a écrit que pour être parfait, nous ne devons rien faire de plus que remplir nos devoirs quotidiens et dans la vie chrétienne ordinaire. Le deuxième thème à évoquer est celui de la réputation de sainteté à l'ère numérique. L'actualité de l'Église en Afrique à présent, en République du Congo, Congo-Brazzaville, suite à l'agression physique d'un prêtre, l'abbé Fred Mbemba, dans la nuit du 20 au 21 septembre dernier à Makisa, l'archidiocèse de Brazzaville a, dans un récent communiqué signé par son vicaire épiscopal chargé du clergé, l'abbé Donatien Bizabulu, exprimé son inquiétude face à la recrudescence de l'insécurité du climat de psychose qui s'est installé depuis plusieurs années au sein de la population en République du Congo. L'archidiocèse de Brazzaville, à travers le dit communiqué, a exhorté de s'en remettre entre les mains de Dieu, suppliant la bienheureuse Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ et mère du Congo, pour qu'elle intercède en notre faveur afin que la sécurité, la justice et la paix deviennent réalité pour toute personne habitant ce pays. L'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé du 29 au 30 septembre dernier dans l'archidiocèse de Yamoussoukro, au centre du pays, sa traditionnelle réunion de rentrée scolaire. Cette rencontre avec tous les acteurs de cet ordre d'enseignement avait pour objectif de leur permettre de mettre à contribution leurs réflexions sur les défis de l'école ivoirienne, en particulier sur l'école catholique, mais aussi de faire le rapport de leurs activités de l'année scolaire écoulée et présenter les grandes lignes de leur programme pour la nouvelle année scolaire 2022-2023. Marcel Aristonbri.
Donnant les nouvelles orientations pastorales pour l'année scolaire 2022-2023 au centre diocésain de Yamoussoukro, le père Jean-Luc Andrément s'est réjoui des avancées significatives enregistrées par l'éducation catholique durant ces dernières années. Des progrès rendus possibles, selon lui, grâce à la vision des évêques ivoiriens en prenant la décision d'engager la réforme de l'éducation catholique en novembre 2017. Selon le secrétaire exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire depuis cette date, plusieurs assemblées plénières des évêques consacrées à l'éducation catholique ont permis à l'institution d'avoir des bases solides. Ils notent par exemple la définition du cadre légal d'existence des écoles catholiques, celle de l'identité des écoles catholiques dans le statut de l'éducation catholique du Côte d'Ivoire, le monorail scolaire, une mutuelle du personnel mise en place et une commission de concertation de dialogue social. Cette liste non exhaustive de résultats obtenus montre l'importance et la qualité du travail abattu par tous les acteurs de l'éducation catholique. À ce bilan, le père Sénèque a inclus les excellents résultats de fin d'année au-dessus de la moyenne nationale obtenue l'année dernière. Il a invité les acteurs à redoubler encore plus d'efforts cette année scolaire 2022-2023 en vue de battre leur propre record dans tous les examens. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et c'est l'heure de l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, où plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mardi à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation du pays quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Dans un communiqué, le capitaine Ibrahim Traoré, désormais à la tête du pays, a indiqué que cette mission est une prise de contact avec les nouvelles autorités de la transition dans le cadre de l'accompagnement dont le Burkina Faso bénéficie de la part de ses voisins ouest-africains. Notons par ailleurs que le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Et concernant cette situation au Burkina Faso, vous entendrez vers la fin de cette édition l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo. Au Mozambique, un double anniversaire a été célébré mardi dans le pays. D'abord, les 30 ans du traité de paix signé à Rome en 1992, qui mettait fin à 15 ans de guerre civile, dans laquelle sont mortes plus de 900 000 personnes. Aussi, ce mois d'octobre marque également les 5 ans du début de l'insurrection djihadiste dans le nord du pays. Malgré la présence d'une coalition de 3 000 soldats africains qui ont bouté hors des villes les terroristes de l'État islamique, ceux-ci résistent et se réorganisent dans les forêts et dans les zones rurales, avec toujours comme projet de mettre en place une charia et un califat islamique. C'est ce que nous explique le chercheur spécialiste du Mozambique, Eric Maurier-Genoud.
L'intervention a changé l'équilibre de force. Les troupes étrangères ont repris le contrôle des villes comme Dapra et Palma qui avaient été perdues par le gouvernement. Mais le conflit continue parce que les insurgés se sont réorganisés, ils ont changé de tactique. Ils ont perdu le contrôle de ces villes qui avaient amené l'établissement d'une administration. Ils sont retournés dans les forêts en petits groupes. Retourner un mode d'opération de guérilla et qui fait que la guerre continue sous une autre forme, mais ils sont dispersés marginalement hein, dans la province un petit peu de Niassa et actuellement dans le sud de la province, dans le but, je pense, de disperser les troupes, mais ce qui n'en empêche, ils ont affecté d'autres entreprises, d'autres projets miniers, et que ça pose donc toujours un problème assez sérieux.
L'opposition de centre droit à Sao Tomé et Principe a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale aux législatives du 25 septembre dernier. C'est ce qu'a annoncé mardi la Cour constitutionnelle de l'archipel d'Afrique centrale, considérée comme un modèle de démocratie parlementaire sur le continent. L'Action indépendante démocratique ADI a obtenu 30 sièges sur les 55 du Parlement monocaméral, battant la fragile coalition du parti de centre-gauche issu de la précédente législature emmenée par le mouvement de libération de Sao Tomé et Principe, parti social-démocratique du Premier ministre Jorge Lopes Bouma Jesus, qui a obtenu 18 sièges. Notre magazine du jour consacré à l'économie nous conduit au Bénin pour parler de la transformation de la jacinthe d'eau, cette espèce de plante aquatique dans l'optique d'une économie durable. Alors qu'elle représente un obstacle et une sorte de poison pour les habitants de sa contrée au Bénin, Henri Totin, jeune entrepreneur, a réussi à transformer la jacinthe d'eau en or vert. Grâce à la revalorisation de cette espèce aquatique, des coopératives ont été créées ainsi que d'autres d'autres activités économiques. La jacinthe d'eau est aujourd'hui transformée en engrais, en objets d'art, en mobilier et en d'autres accessoires. Une transformation qui a amélioré la vie socio-économique des Béninois de sa contrée, tout en étant respectueuse de l'environnement. Fin septembre, l'initiateur de ce projet, le Béninois Henri Tautan, a présenté l'évolution de ses travaux à l'événement The Economy of Francesco à Assise, en Italie. On écoute.
Au Bénin, la valorisation de la jacinthe d'eau demeure une préoccupation majeure actuellement en raison de la multiplication anarchique de cette espèce aquatique. C'est une plante aquatique invasive. On pourrait le reconnaître comme l'une des macrophytes envahissantes les plus répandues dans le monde. Donc la jacinthe d'eau, on l'appelle aussi à un nom scientifique, Erigonia crassipex. Elle est la plus présente en Afrique et la plus envahissante. Et la science même a prouvé que en 8 mois, si vous prenez un seul plant de jacinthe, ça peut se multiplier en 655 000 environ de nouvelles plants. Et donc, vous imaginez la prolifération. Si on met 10 plants de jacinthe dans un milieu en 8 mois, donc on a déjà plus de 6 millions de plants. Donc, l'invasion des plants d'eau et pas la jacinthe d'eau génère aujourd'hui de multiples impacts négatifs pour la communauté de la Basse-Vallée d'où je viens.
Et comme vous dites, la jacinthe d'eau était pour les habitants de votre contrée une sorte de poison et d'obstacle. Et grâce à vos recherches, vous avez transformé en engrais, en objet d'art, en mobilier ou en d'autres accessoires.
Voilà.
Au point de qualifier ça de or vert. Pouvez-vous nous en dire plus?
Du coup, cette jacinthe étant un véritable poison pour la communauté, il rend très difficile le déplacement sur l'eau, puisque toutes nos activités au niveau de notre communauté se mènent au fait sur l'eau. Et le marché est sur l'eau, l'hôpital est sur l'eau, et tout notre quotidien se retrouve sur l'eau, les cases sont surpilotis sur l'eau. Et donc, quand la jacinthe envahit le village, on n'a plus la possibilité de se déplacer, on a toute une grande difficulté. Et donc, on a pris conscience de l'enjeu quand on a eu le décès d'un proche de nous, où la difficulté était de l'amener très vite à l'hôpital, mais la jacinthe a formé des tapis sur l'eau qui a empêché de vite aller se rendre au centre de santé. Donc nous avions de là commencé par mener des recherches en tant que jeunes du milieu. Et là, on a fait une belle découverte en transformant ce problème en opportunité. Et aujourd'hui, on utilise la jacinthe pour faire du fertilisant, du compost, que nous avions dénommé compost magique. Magique parce que c'est du poison qu'on a transformé en or vert. Voilà, ce compost magique est utilisé par tous les agriculteurs du milieu et la jacinthe est devenue la matière première, la plus précieuse maintenant du milieu. Et donc, quand nous voyons la jacinthe aujourd'hui, on n'a plus peur, puisqu'on se dit déjà que c'est de la matière première qui est venue, donc on a du boulot, on a du travail à faire, et on a de l'artisanat à faire, puisqu'on fabrique aujourd'hui des emballages biodégradables, des paniers, des corbeilles, des objets d'art, des chaussures. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur un projet de mise en place de boulot à base de la jacinthe d'eau, puisque déjà, les études ont été menées, l'expérience est vraiment concrète, et donc, on a besoin encore de moyens financiers pour continuer dans ce sens et installer du gaz dans plusieurs contrées de la région.
Donc, on peut dire aujourd'hui que la jacinthe d'eau a amélioré la vie des communautés du point de vue économique et social.
Oui, du point de vue économique et social, aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de coopératives et ce sont des petites entreprises inclusives, participatives et de femmes qui se sont installées et qui se sont spécialisées sur les différents maillons de production à base de la jacinthe. Nous avons des coopératives qui produisent du compost, nous avons des coopératives qui produisent du charbon vert à base de la jacinthe, nous avons des coopératives qui font de la culture au sol avec des fibres de jacinthe. Et ce qui est encore innovant, les fibres séchées de cette jacinthe nous permettent de recueillir les liquides dangereux comme l'essence et du carburant déversé sur l'eau. Avec les fibres captent tous ces produits-là et de la surface de l'eau. On utilise la jacinthe aujourd'hui dans presque tous les secteurs de notre vie quotidienne. Donc ces coopératives aujourd'hui, d'autres sont dans l'agriculture écologique et le compost utilisé, c'est exclusivement à base de la jacinthe d'eau. Et vous allez voir sur plusieurs de mes photos, j'avais un chapeau sur la tête et le chapeau, c'est à base des fibres de jacinthe. Aujourd'hui, tous les riverains, que ce soit pêcheurs, que ce soit artisan, que ça soit agriculteur, c'est ce chapeau à base de la jeunesse que nous portons pour donner de la fierté à la communauté et on se reconnaît par ces objets artisanaux à base de la jacinthe un peu partout où nous passons.
Henri Tautin, jeune entrepreneur béninois, directeur exécutif de l'ONG GEVEV, Jeunesse et Emploi Vert, pour une économie verte qui travaille sur la transformation de la jacinthe d'eau dans l'optique d'une économie durable. Il était au micro de Stanislas Kambashi. Le Burkina Faso, nous en reparlons. Le pays a enregistré le 30 septembre dernier son deuxième coup d'État en moins d'une année. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tête du pays depuis le coup de force du 24 janvier 2022, a été renversé par des militaires menés par le capitaine Ibrahim Traoré. Dans cette deuxième et dernière partie de l'interview qu'il nous a accordée suite à ces derniers événements, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, le cardinal Philippe Ouédraogo, appelle ses compatriotes à l'espérance et revient sur le besoin de stabilité du peuple burkinabé face à une situation de coup d'État répétitif et d'insécurité.
Le peuple a des attentes légitimes, il y a d'énormes défis, et tant qu'on ne verra pas des efforts de solutions par égard aux défis multiples et complexes que le peuple vit au quotidien, non seulement surtout dans les zones occupées, notamment dans les régions du Sahel, de l'Est, de un peu, voilà, c'est ça, cela est vraiment très préoccupant. Et c'est pour cela que on souhaite une amélioration. Est-ce qu'on peut espérer que l'avènement du MPSR2 avec l'avènement du nouveau capitaine et son équipe parviendront-ils à répondre aux grands défis auxquels sont confrontées nos sociétés, nos populations? Voilà des questions qu'on se pose. Alors nous attendons pour voir dans quel sens ça ira, mais nous souhaitons que tout se mette en œuvre pour garantir vraiment la paix, la cohésion sociale et la pacification, la récupération du territoire et une avancée dans le sens de la réconciliation, la justice et la paix. Nous attendons seulement que le dialogue prévale et que l'intérêt général, le bien commun, l'emporte sur tout le reste.
Éminence, face à cette situation, quel est l'appel de l'Église catholique et de l'ensemble des communautés religieuses au Burkina Faso?
Dans leur message, la fêtière des communautés coutumières et religieuses indique la population au calme, et à la retenue et à la prière pour notre chère patrie de Burkina Faso. Leader religieux, j'insiste toujours que la paix est un don de Dieu. Et la paix est le fruit des efforts des hommes. Donc nous n'avons de cesse de prier et de donner des messages assez forts dans nos églises, dans nos temples et dans nos mosquées en faveur de la réconciliation, de la justice et de la paix. L'Afrique vit de l'espérance et ça sera notre force reste l'espérance. En tant que président du CHEAM, le symposium de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, dans mon mandat a pris fin en fin juillet dernier, nous avons adressé à l'Union africaine un message que nous estimons très fort à l'adresse de tous, que cessent les armes, que se taisent les armes pour que prévale le dialogue et dans le sens de la promotion du bien commun, de minimiser autant que possible les souffrances de la population. C'est cela notre espérance, non seulement au niveau africain, mais au niveau de notre pays et de notre sous-région confrontée à ce défi du terrorisme. Alors nous vivons donc dans cette espérance sûre que la paix est, comme je l'ai déjà dit, un don de Dieu, mais la paix est le fruit des efforts des hommes.
L'archevêque de Ouagadougou, Burkina Faso, le cardinal Philippe Ouédraogo, qui revenait à l'instant sur le besoin de stabilité au Burkina Faso.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de votre aimable attention et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Gardons l'espoir car la paix est toujours possible pour l'Afrique. À très bientôt.
Oui, c'est possible. Difficile, tu en es capable. différence. Oui, c'est possible.